Scope Arena présente Vue du banc avec Florent Tonuti, Raphaël Cosmidis et Christophe Cuchely.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 23e épisode de la saison 9 de Vue du banc. Cette semaine, on s'intéresse aux Coupes d'Europe et notamment à la Ligue Europa Conférence puisque Marseille est la dernière équipe française en lice sur la scène européenne. Dans cette optique, je suis accompagné des deux tauliers habituels, d'abord de Florent Tonuti, salut Flo.
Salut Raphaël, salut à tous.
Et de Christophe Cuchely, salut Christophe.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous les gens qui nous écoutent.
Messieurs, nous allons évidemment parler ensuite de la Ligue des Champions, mais on va démarrer par le club français. Le dernier, c'est l'Olympique de Marseille qui se déplaçait à Rotterdam pour affronter Feyenoord en Ligue Europa Conférence, en demi-finale de cette Ligue Europa Conférence, 4 ans après la demi-finale de Ligue Europa, tout simplement contre Salzbourg, à l'époque je crois c'était, que Marseille s'était qualifié pour la finale.
Oui.
Victoire 3-2 cette fois de Feyenoord, un match génésiesque, on a utilisé ce terme en préparant l'émission, Florent, parce que c'était foufou. D'ailleurs, tu as des stats qui confirment un peu ça. En termes d'occasions créées notamment, c'est un match, alors là, qui est remporté par Feyenoord, mais qui aurait pu tourner dans plein de sens, avec beaucoup de tournants aussi dans la rencontre, qui n'en ont pas été, parce que des joueurs ont raté des occasions.
Ouais, 12 tirs de part et d'autre, mais 5 grosses occasions de chaque côté. Si on prend Fotmob, qui, je pense, allait donner Dopta, il me semble. Aux expected goals, on finit à 2,24 pour Feyenoord, 1,84 pour Marseille. Mais comme tu le disais, c'est vrai que c'est un match qui a eu plusieurs tournants possibles. Et d'ailleurs, Marseille a eu les premiers tournants en sa faveur avec ses sorties de balles via Payet pour lancer Bamba Dieng en profondeur. Alors que l'équipe prenait la tempête et t'as ses premiers face-à-face loupés par Dieng qui sans doute renforce encore un peu plus le Feyenoord dans son projet, dans son temps fort. Et qui peuvent expliquer pourquoi ça bascule d'abord du côté des Néerlandais.
Les compositions d'équipe, Florent, tu as cité certains buteurs, je vais donner les buteurs pour commencer. Cyril Dessers qui marque à la 18e, ensuite Sinisterra à la 20e, Dieng réduit l'écart à la 28e, Gerson Inglés à la 40e, et juste au retour de la mi-temps, Dessers met son deuxième but sur une belle séquence marseillaise qu'on aura l'occasion de décrire après. Les compositions donc dans les buts de Feyenoord Marciano, une défense à 4 avec Gertruda, je ne sais pas, Christophe va valider ou non.
Ouais, ça m'a l'air d'être à peu près ça, je dirais Gertruda.
Gertruda, ok.
Trauner, Gertruda, si tu enlèves, je pense, le G à la R.
Oula, oh ouais, bon. c'est trop pour moi. Trauner et Senesi dans l'axe, Malassi à gauche. Au milieu de terrain, Horsnes et Kukchou. Reiss Nelson, couloir droit. À gauche, Sinisterra. Andy, Thiel, non pas Vincent Thiel, mais j'ai oublié le prénom, mais Thiel, hein. Thiel de Feyenoord, et devant, donc Dessers qui a mis doublé. Du côté de Marseille, mandant dans les buts, une défense à 4, Rongier, Saliba, Caeta, Charles, Pérez, un milieu à 3, Guendouzi, Camara, Gerson, et une attaque avec Payet dans l'axe, et Bakambu, couloir droit, et Dieng, couloir gauche. C'était une compo plutôt offensive, Christophe, de la part de Sampaoli, et surtout une compo avec des joueurs capables de prendre la profondeur, ce qui d'ailleurs a fonctionné par séquence. Le souci, et le premier souci du match, c'est que Marseille pouvait attaquer dans la profondeur, mais n'a pas su gérer la sienne.
Oui, et ce qui est assez dommageable, c'est que les deux sont pas forcément corrélés. Parce que si tu dis, t'as pressé, mais tu t'es fait prendre en profondeur, oui, bah oui, c'est logique, et c'est un peu le revers de la médaille. C'est-à-dire, soit ton bloc est très haut, tu récupères la balle, tant mieux, et si t'arrives pas à récupérer la balle, bah forcément, derrière, tu dois gérer la profondeur. C'est vraiment deux choses qui n'ont pas forcément de lien. C'est-à-dire, Marseille attaquait bien la profondeur, et forcément, avec le profil de Bakambu et Dieng, c'est logique, parce que c'est les deux joueurs de profondeur de l'effectif. Maintenant, Marseille se faisait avoir en profondeur sur des séquences qui n'étaient pas forcément des séquences de pressing. C'était parfois des séquences où Feyenoord fait un peu tourner, puis d'un coup, bim, ça lance rapidement en profondeur, et c'est simplement une question de communication, une question de placement, une question de... Je sais pas si c'est une question de manque d'habitude ou pas, parce que là, il y avait vraiment souvent deux voire trois appels, et est-ce que je... Autant pour le pressing, je pense qu'il y a vraiment un manque d'habitude de la part de Marseille, parce qu'il y a quand même pas mal de difficultés sous pression sur le fait de rencontrer un adversaire aussi extrême dans son approche, parce que je pense qu'en Ligue 1 c'est assez rare. Maintenant, en Ligue 1, il y a quand même des équipes qui essayent de vite jouer à la profondeur. Est-ce que là les passes étaient meilleures que celles que tu peux voir en Ligue 1? Sans doute. Est-ce qu'il y avait plus d'appels? C'est-à-dire qu'en Ligue 1, t'as juste peut-être un joueur de profondeur plutôt que deux ou trois sur la ligne 2-3 offensifs pour les équipes en plus qui jouent en 4-3-3. Peut-être aussi, mais c'est vrai que ça a quand même été hyper marquant. Et du coup, le début de match, ça m'a fait un peu penser à certains matchs de Sampaoli avec Séville, notamment son tout premier, quand il gagne 5-3 face à l'Espagnol. Sauf que ces équipes-là de Sampaoli étaient volontairement déséquilibrées vers l'avant. Et t'avais...
5-3 ou 6-4, Christophe 4, je m'en rappelle plus. Ouais, 6-4.
C'est encore pire. Mais t'avais... T'avais deux centraux, t'avais Nzonzi devant la défense, les deux latéraux étaient hyper offensifs, ensuite c'était que des milieux offensifs, des attaquants. Donc tu pouvais un peu comprendre le côté, bon, allez, on parie tout sur l'attaque. Là, effectivement, il y avait un côté Genesio, alors qu'on se comprenne tous, hein, c'est le Genesio de l'OL, Ligue des Champions, notamment quand il jouait contre Offenheim et le Shakhtar, etc., où ça partait en vrille, pas le Genesio Rennes.
Et l'OL Ligue Europa aussi, qui va jusqu'en demi-finale.
Aussi,
de,
oui,
de
comme ça, contre l'Ajax aussi, ça
match fou
dans tous les sens. Mais c'est vrai que là-dessus, c'est dommage, parce qu'encore une fois, au-delà du fait que Dieng marque pas ses occasions, mais je t'avoue, je suis pas sûr que tout le monde était forcément surpris, vu la capacité qu'il a à rater ce qui se crée, la défense a quand même été suspecte sur pas mal d'occasions en première période.
Alors Florent, je sais que toi tu es assez peu client des blocs médians.
Oui.
Là, l'OM n'a pas forcément été très souvent en bloc haut, c'était un bloc médian, voire un bloc bas, j'ai envie de dire un bloc médi-bas, parce que c'était médian, mais plus dans son camp que dans le camp adverse.
Le bloc médian est toujours dans son camp, en général.
Oui, non, mais ouais, mais c'était
les attaquants qui sont dans le rond central, et puis, ensuite...
Oui, non, mais tu vois, c'était pas Payet qui était à 35 mètres des buts adverses, et la ligne défensive qui était à 35 de ce moment-là, c'était un peu plus bas, c'est ça que je voulais dire. Mais pourquoi ce bloc médian de l'OM a autant souffert dans le peu de profondeur qu'il y avait? Parce que finalement, il n'y avait pas tant de profondeur que ça dans le dos de la ligne défensive.
Ah, quand même, je trouve qu'il y en avait pas mal. Reprend le match face au PSG, le match face à Paris, Marseille a très bien fait deux choses malgré son bloc médian, c'est qu'ils ont très bien mis les Parisiens hors jeu, et c'est vrai qu'en face, côté parisien, il y avait un appel, peut-être deux, là il y en avait trois, il y en avait quatre, et ce qui était notable surtout dans ce match du Feyenoord, c'est que à chaque fois que la ligne défensive marseillaise essayait de remonter le terrain, à chaque fois il y avait un appel qui la prenait à contre-pied quasiment. Et vous avez pas...
Mais est-ce que le bloc marseillais remontait au bon moment? Est-ce que le bloc marseillais remontait en mettant de la pression sur le porteur?
Mais non.
C'est ça la question.
Non.
Mais le
manque de pression sur le porteur, de toute façon côté marseillais c'est quand même une habitude. Les centraux, je reprends le match face au PSG, les centraux parisiens ils pouvaient jouer à loisir un peu où ils voulaient. Et c'est ça qui était que Paris n'avait pas exploité faute d'appel. Là, Feyenoord faisait, comme le disait Christophe, 2, 3, 4 appels. Et parfois, quand il y avait une passe en retrait et que le bloc marseillais essayait de remonter, la ligne défensive essayait de remonter, et ben t'avais la passe qui partait de suite dans leur dos et qui les prenait à contre-pied. Et c'est là-dessus, je pense, qu'ils ont beaucoup souffert. Je pense que au-delà, en plus des attaquants, les deux latéraux du PSV aussi ont été très du Feyenoord ont été très généreux sur ce plan-là au niveau des appels, et ça pouvait partir dans tous les sens, et c'est ça qui les a particulièrement fait souffrir. Mais bon, c'est toujours le problème, hein, de toute façon, quand t'as un bloc médian, que t'es dans l'attente, si tes attaquants sont loin du porteur de balle, c'est ce que tu disais tout à l'heure, porteur pas cadré, bah, c'est un danger de prendre une balle dans le dos de la défense. Et c'est ce qui s'est passé pendant toute la première mi-temps. En deuxième, ça s'est un petit peu calmé parce que le PSG a un petit peu levé le pied, je pense, sur les courses et en termes d'intensité. Mais, comme le disait Christophe tout à l'heure, il y a aucune équipe de Ligue 1 qui a fait ça à Marseille, je pense, cette saison. Et peut-être que certaines équipes de Ligue 1, d'ici la fin de saison, s'inspireront de ce qu'a fait le Feyenoord.
Christophe, qui as-tu aimé parmi l'équipe du Feyenoord? Parce que là, on parle beaucoup de ce qu'ils ont fait collectivement. Il y a des joueurs tout de même qui ont été marquants sur ce match. Je pense notamment à Kukchou, à Sinisterra, même à Dessers. Lesquels, toi, si tu devais en retenir un ou deux?
Alors, sur le début de match, j'aimais assez bien Nelson, que je trouvais à la fois capable de proposer en profondeur et aussi de décrocher un peu quand il prenait, lui, la profondeur à son tour, etc. Je trouvais assez disponible. Maintenant, j'ai quand même envie de retenir, après, c'est facile, hein, mais le trident Kukchou, Sinisterra, Dessers. Des trois, j'ai l'impression que le meilleur footballeur est peut-être Kökçü, que le plus décisif sur le plan offensif, celui qui vaut mieux avoir dans son équipe si vraiment on veut faire la différence dans la surface, c'est Sinisterra. Et Dessers, c'est vraiment le chien, dans le bon sens du terme, quoi, quelqu'un qui presse partout.
Ouais, j'étais pas prêt pour ça.
Mais déjà face au Slavia, en fait, c'est ça qui m'a fait marrer sur le but.
C'était déjà un chien face au Slavia, Christophe, c'est ça?
Non, en fait, j'ai l'impression que ce terme est très négatif pour vous, alors que moi, je vois de manière très positive. Déjà face au Slavia, en fait, il marque. Je crois que c'est lui qui marque un but totalement ridicule parce que le gardien fait n'importe quoi, mais c'est lui qui est au pressing. Et là, l'action où il marque le but au bout de 15 secondes, même pas en seconde période, où Galetachar fait n'importe quoi. Après, Mandanda est quand même pas hyper vif sur le coup, mais il va presser tous les porteurs de balles les uns après les autres. Alors derrière, ça suit. Hein, il s'amuse pas à presser tout seul, mais rien que ce côté, je vais presser, je suis mon pressing, jusqu'à aller sur la passe en retrait au gardien et à l'intercepter. C'est une débauche d'énergie qui est là aussi pas ultra courante et qui est même potentiellement suicidaire, hein, parce que Feyenoord à la 65e est quasiment plus d'énergie. Mais lui, je le retiens plus sur le côté vraiment ouais attaquant qui court partout, qui va presser. Alors c'est toujours la référence que je fais, elle est pas hyper pertinente parce que c'était pas exactement le même joueur, mais tu vois un Dirk Kuyt qui est vraiment une légende de Feyenoord et qui symbolise un peu cette équipe de Feyenoord où c'est un peu plus des travailleurs qu'à l'Ajax où c'est un petit peu plus des artistes. Bon, Dessert c'est pas Kuyt, mais disons c'est un peu ce profil-là d'attaquant qui va courir partout. Là où Kökçü c'est vraiment un vrai bon joueur de ballon qui fait des vraies belles passes vers l'avant, qui est vraiment capable de dicter le tempo. Et Sinisterra est pour moi peut-être, je pense sans doute, celui qui peut aller le plus haut. Alors c'est pas non plus Luis Diaz, hein, mais c'est, je pense, quelqu'un qui est capable de faire des vraiment cette combinaison finition, passe, dribble, un bagage assez complet pour un offensif qui a beaucoup beaucoup de buts cette saison. Et lui, ça m'étonnerait pas qu'on le voit assez rapidement dans un bon club européen, même s'il est déjà dans un bon club européen. Mais pour moi, ce sont vraiment ces trois-là. Après, le reste m'a semblé quand même beaucoup plus travailleur. Malacia a fait quelques montées, Thiel a fait ses appels, mais tu vois, Orestnes, là, je sais pas comment on prononce le milieu reculé, le Norvégien. Mais par exemple, j'ai aucun souvenir de lui, à part le fait de se jeter, de faire des fautes, etc. La charnière, pareil, quoi. Elle se bat, mais, et le gardien, j'en parle pas parce que lui, il m'a rappelé, je m'amuse à me faire des résumés des matchs de division amateur belge sur la chaîne TV Lux, qui propose ses résumés de matchs.
Grand souvenir de cette joueuse interrogée alors qu'elle avait une énorme meute de terre encore.
C'est ça. Je conseille à tout le monde, si vous avez envie de voir des matchs amateurs de 5-6e division, alors c'est pas forcément pour se moquer, c'est juste qu'en fait on n'a pas l'habitude de voir des matchs de ce niveau-là filmés, quoi. C'est comme si tu filmais de la R1.
Et commenter
dans les conditions du direct.
Tous les résumés sont commentés, et c'est ça qui est mythique. C'est comme si des matchs de D3 étaient commentés en France.
De R1, de N3, quoi.
Oui, mais vu que c'est au Luxembourg.
Non, c'est en Belgique. C'est la province du Luxembourg.
Ouais,
en Belgique. Ça m'a rappelé ces matchs que je regardais sur la partie sport de TV Lux et que je regardais quelques heures plus tôt avec donc ce Marciano qui est un gardien assez approximatif. Mais voilà, globalement, pour ce tour d'horizon, beaucoup trop long par rapport à ta question.
Petite mention quand même pour Trauner, le passe-d'âne autrichien de la défense centrale de Feyenoord. Qui a fait le taf. Et Malacia qui a fait un gros retour à un moment sur Bamba Dieng quand même.
Oui. Deuxième mi-temps, ouais.
Moment où Bamba Dieng nous refait une conduite de balle qui lui permet jamais de frapper avec son pied fort. C'est quand même un vrai problème. C'est la différence avec d'autres joueurs de son profil qui, comme Mané par exemple, qui arrive toujours à se placer pour pouvoir finir. Mais que ce soit pied droit ou pied gauche, mais Bamba Dieng s'ouvre pas d'angle de frappe dans sa conduite de balle. Ou dans ses prises de balle. Et c'est quand même un vrai souci, mais aussi un axe de progression qui peut l'amener beaucoup plus haut. Flo, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette rencontre qui n'a pas été dit? Est-ce qu'il y a une, pourquoi, comment Marseille a marqué deux buts, déjà? Pourquoi ils ont réussi quand même à obtenir un score qui peut être renversé au retour, puisqu'il n'y a qu'un seul but d'écart et que le match sera dans la furia du Vélodrome?
Bah, le premier, c'est Dieng, qui le met un peu tout seul. Pour le coup, avec une frappe soudaine du droit, du coup, si mes souvenirs sont bons, je pense.
C'est ça. Ouais.
Frappe croisée. Et puis le second, bon, tu peux quand même remercier. Bah, Christophe parlait du gardien de but. Tu peux remercier Marciano, je pense, qui met la passe D pour Gerson. Après, c'est une séquence.
L'action était pas mal.
C'est ce que j'allais dire justement. La construction avec le centre de Guendouzi côté droit. Mais je pense que en vue du match retour, il y a deux choses, c'est-à-dire que, alors, il y aura aussi une question, c'est quel a été le facteur côté Feyenoord du public, etc., de l'engouement peut-être autour de ce match, parce que t'avais l'impression que c'était assez chaud hein, dans les tribunes, etc.
Ah oui, il y a une ambiance de fou.
Et à quel degré ça a poussé les joueurs à mettre la pression qu'ils ont mis aux Marseillais, parce que sur le temps fort du Feyenoord, on a parlé des problèmes de Marseille pour gérer la profondeur et de tous ces appels qui partaient, mais il faut aussi parler de la capacité du PSG à presser les sorties de balles marseillaises, à gratter des ballons très très haut avant que les Bayons arrivent par exemple jusqu'à Payet. Et ça, il y a quand même eu des ballons rendus à cause de ce pressing qui était très focalisé sur les joueurs d'axe, c'est-à-dire que t'avais évidemment l'organisation marseillaise qui passait en 3-2 au moment de la possession et du contrôle du ballon, et ce 3-2 était géré par les offensifs en fait du Feyenoord, puisque Sinisterra est à droite, j'ai perdu le nom de l'ailier de l'autre côté. Vous allez me le rappeler.
Reiss Nelson.
Oui, Reiss Nelson était chargé de sortir surtout sur Saliba ou sur Luan Perez en fonction de la position du ballon, et donc ce pressing là libérait quand même les côtés, mais c'est vrai que Marseille n'avait pas de joueur de côté puisque Sampaoli avait fait le choix de cette verticalité avec Bakambu, avec Dieng qui devaient eux rentrer, et l'idée c'était de réussir à sortir du pressing pour trouver Payet et pour lancer en profondeur. Et en deuxième, ça allait mieux pour Marseille, je pense, parce que l'entrée d'Harit sur l'aile gauche a amené une capacité, une force de percussion dans cette zone-là. Et peut-être que au retour, Marseille gagnera à avoir toujours un attaquant de profondeur devant pour ressortir les ballons, mais peut-être que deux ailiers sur les côtés, ça sera peut-être plus pertinent. Ça veut dire avoir que deux milieux au lieu de trois, puisque tu sortirais Payet, mais ou Payet peut-être sur un côté. Mais il y a peut-être une réflexion à ce niveau-là qui peut permettre à l'OM d'être dans de meilleures dispositions, parce que c'est vrai que là, pour sortir du pressing, ils ont eu énormément de soucis et ils ont pas forcément trouvé les circuits qu'ils pouvaient trouver d'ailleurs très souvent sur les côtés, avec le côté droit qui fonctionnait bien avec Rongier Gendouzi auparavant dans d'autres matchs. Là, ça a été très très difficile, et Rongier et Camara ont quand même eu énormément de difficultés sous pression en première mi-temps.
Bah, tu disais que le Duckfeep, ou je sais pas comment on dit, Duckfeep, le stade de Feyenoord était en feu. Flo, petit quiz improvisé, de quand date la dernière demi-finale européenne de Feyenoord?
Bah, c'est l'année où ils battent le Borussia Dortmund en finale de Ligue Europa, enfin de Coupe UEFA.
Ouais, donc c'était quand? C'était quand, Christophe?
2001? Pas du tout, 2002?
C'est 2002. Saison 2001-2002.
Une couleur qui met une
finale contre l'Inter. Et finale où il y a un coup franc de Van Hooydonk, ouais. C'est ça, je crois.
J'allais parler de Van Hooydonk, moi, donc...
Ouais. Donc oui, ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas fait de demi-finale européenne, sachant que la fois précédente, c'était en 96, je crois, c'est ça. C'était en Coupe des
Coupes. C'est deux, du coup, ouais.
En Coupe des Vainqueurs de Coupe. Et avant ça, c'était en 74.
Ils perdent contre Vienne, du coup?
Non, en 92, allez. Ouais, ils perdent contre Vienne, ouais, putain, t'as un souvenir incroyable.
Bah, c'était rapide de Vienne, donc, la finale.
Oui, mais t'es pas, j'ai tout souvenir des demi-finales. Bon, bref.
Mais je savais pas contre qui. Ça se trouve, ils perdaient contre Paris, je me rappelle pas.
C'est ça. Et 92, ils jouent Monaco en demi-finale. Ils perdent contre Monaco. Et avant 92, il y a 81 contre le Dynamo de Tbilissi. Et avant ça encore, 70, 63, 74, enfin, donc, ça faisait longtemps qu'ils avaient pas eu une demi-finale. Et avant ça même, il y avait eu des petits trous. Donc ça reste un moment quand même historique pour Feyenoord, qui du coup pourrait disputer sa première finale aussi depuis 2002. En cas de qualification. Christophe, est-ce que tu veux dire un dernier mot sur ce match, ou mentionner peut-être un tout petit truc sur les autres matchs du soir?
Non, bah déjà, enfin, je trouve qu'on passe assez vite sur ce match. Il y a quand même des choses intéressantes à noter. Déjà le fait que
Tu peux, hein.
Déjà le fait que c'était un match, bon, je vais pas forcément redire ce qu'on a dit, mais très animé, mais que malgré tout, je trouve que ça sentait. Je dis je trouve, mais je sais pour en avoir parlé avec Florent qui pense à la même chose. Ça sentait vraiment la C4, mais on peut élargir à la C3. Hein, mais la façon, comme je sais pas si c'est suicidaire, mais en tout cas hyper agressive dont Feyenoord pressait. Ça passe parce que c'est Marseille et parce qu'il y a un côté, alors c'est pas non plus l'anarchie, mais le fait de venir vraiment par vague, etc., ça a provoqué quand même quelques prises de risque non maîtrisées de la part de Marseille, et soit des prises de risque, enfin en gros c'est soit ça paniquait, ça balançait n'importe comment, soit comme certaines passes de Caleta de Char, notamment la salle verticale, on essaye de faire comme s'il y avait le pressing habituel en Ligue 1, sauf que là il y avait plus de monde et c'était intercepté par la deuxième ligne. Mais sans minorer la qualité de Feyenoord, hein, qui est quand même une bonne équipe, mais encore une fois, si Feyenoord n'est pas du tout dans la course au titre aux Pays-Bas, c'est aussi qu'il y a certaines limites. Alors même si le coach Arne Slot faisait un hyper bon boulot du côté de la Z avant, et je pense que c'est, vu son âge, un vrai coach d'avenir qui va potentiellement aller bien plus haut dans les années suivantes, mais face à une équipe, alors Tu me diras, tout le monde explose face à Liverpool, mais une équipe comme Liverpool, une équipe comme City, une équipe qui est vraiment capable de sortir du pressing sous pression, c'est un peu répétitif, mais peu importe, les gens ont compris, Feyenoord peut prendre 6-0, quoi. Et c'est ça qui me rend curieux pour le match retour, dans la mesure où les Marseillais vont pas devenir immenses sous pression. C'est-à-dire, ils sont pas forcément vus, mais je veux dire, Luan Pérez, ça va pas devenir Emeric Laporte en 2 semaines.
Tiens. Vu que maintenant t'as connu le match aller, bon, après Feyenoord va pas forcément faire la même chose au match retour, surtout qu'il y aura pas l'appui du public. Mais tu partirais avec quel joueur si t'es Sampaoli, des joueurs qui n'étaient pas forcément dans le 11, ou est-ce que tu repartirais avec les mêmes? Quelle configuration tu adoptes?
Bah justement, c'est une vraie question. Je pense que tu pourras aussi la poser à Florent. Parce que d'un côté, la première mi-temps, je la trouve pas inintéressante. De l'autre, faire un quitte ou double permanent face à une équipe qui aime le quitte ou double permanent, alors que tu as joué sur un truc de sûreté absolue depuis le début de saison, je pense que c'est un peu too much. Maintenant, l'aspect Bakambu et Dieng pour faire des appels en profondeur, c'est quand même un truc hyper intéressant. Mais c'est difficile de... Là, pour moi, il y a quand même un joueur qui m'embête un peu, c'est Luan Pérez depuis pas mal de temps. Ça, c'est la première chose. Après, tu peux jouer avec la même équipe et faire redescendre Camara directement plus bas. Je t'avoue que j'ai du mal à voir vraiment une solution parfaite. J'ai quand même envie de voir Cengiz Under dans cette équipe. Oui. Parce que même si tu perdrais un peu en appel en profondeur, hein, il est quand même capable de la prendre. Et puis surtout, sur des 1 contre 1, même sur des passes d'ailleurs, parce que c'est pas juste quelqu'un qui repique et qui frappe, il est capable de faire des très bonnes passes. C'est intéressant. Après, encore une fois, moi, ce qui m'embête là-dessus, c'est que avec la même équipe, potentiellement, tu peux vraiment faire pas mal de possessions si t'as envie d'être un peu plus calme. Mais la défense, les limites qu'elle a montrées sur ce match-là, pour moi, c'est plus une question de bloc, d'équilibre collectif ou de limites individuelles. Je suis pas sûr que tu puisses régler les petits problèmes de Caleta-Char sur ce match, juste en le sortant, en fait. Donc, j'avoue qu'il y a des limites. Pour moi, en tout cas, ce serait plus une question de maîtrise du tempo. Après, t'es mené, donc est-ce que tu fais un peu de possession à 70% et tu gardes la balle et t'essaies de limiter les occasions? Ou est-ce que tu te dis, notre meilleure chance de mettre 2 buts d'écart, c'est de mettre de la folie? C'est difficile à dire, mais en tout cas, t'as plusieurs options, et l'autre option, c'est, tu mets Under, Milik, etc. Mais je t'avoue que je suis pas pour forcément mettre Milik d'entrée de jeu sur le match retour. Maintenant, si c'est pas forcément bien à la 45e, là, tu pourrais le mettre. Mais j'ai pas de vraie bonne solution, parce que pour moi, vraiment, le meilleur moyen de taper Feyenoord, c'est de casser leur pressing. Et encore une fois, je suis pas persuadé que cette équipe-là soit forcément capable de se réinventer totalement sur ce plan.
Après, est-ce que Feyenoord va autant presser au retour, maintenant qu'ils ont l'avantage du score?
J'ai pas l'impression qu'ils soient forcément hyper influencés par le score, dans leur façon de jouer.
Est-ce qu'ils savent faire autre chose? Je sais pas.
Je les ai pas assez vus, je m'interroge. Mais bon, c'est un match qui a quand même été gâché par la suppression du but à l'extérieur, Christophe.
Absolument. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on enregistre le podcast en 2 épisodes. Et que donc du coup en 2 sessions, et donc la partie sur Ligue des Champions, on l'a déjà enregistrée, où d'ailleurs je suis assez énervé, donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont s'énerver sur moi, parce que je suis un peu en mode Guy Bedos sur la deuxième partie. Je mentionne évidemment le but à l'extérieur et les réalisateurs, qui sont les deux choses qui m'amusent beaucoup dans le football actuel. Mais en tout cas, c'était un match un peu bête, façon de parler, c'est-à-dire c'était un peu pas cadré du tout, c'était pas un match de très très haut niveau sur tous les plans, mais c'était fun, et mine de rien, c'est aussi ça que tu demandes parfois dans ces matchs européens. C'est la 3e coupe européenne en hiérarchie. C'était fun, on a passé un bon moment. J'ai vu les résumés des autres matchs, j'ai l'impression qu'on a passé un meilleur moment sur ce match-là que sur tous les autres, a priori. Donc c'est déjà, rien que ça, c'est déjà cool. Et pour les supporters marseillais, je pense que même si tu perds, t'as quand même un souvenir un peu plus marquant que face à Salonique ou autre, quoi.
C'est un match qui allait en déclinant, par contre. Ça a démarré très très fort, et puis au fil du match, les deux équipes se sont un peu plus stabilisées, avec Sampaoli qui a changé 2 fois d'organisation, et la dernière organisation a un peu stabilisé l'OM, quand il est passé avec Camara et Saliba dans l'axe, et qu'il a mis un 4-3-3 assez classique avec Gerson, Guendouzi et je sais plus qui était le troisième milieu, Rongier à ce moment-là, je sais pas, il a tellement changé les joueurs, et qu'il y avait Harry de côté gauche, à droite il y avait Bamba Dieng, et en pointe il y avait Milik. Ah ouais, ça doit être Payet qui faisait le troisième milieu. Donc il est un peu stabilisé, ou Payet à gauche.
C'est un bon moment là qui est en train de se jouer.
Ouais, c'est, non, mais ce truc, c'est qu'il a tellement bougé, tu vois. Et je suis pas le seul, parce que quand il a tout changé, à un moment, on a entendu Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri, qui ont dit que Camara, sur le terrain, demandait au coach parce qu'il comprenait pas du tout comment il devait jouer à partir de ce moment-là.
Ouais, c'est au moment de l'entrée d'Harit, à la 70e.
Donc je ne suis pas le seul.
Après, perdu. Raphaël, juste comme ça, alors au moment où l'épisode sortira, peut-être que les gens le sauront, parce que ça sera déjà en ligne, notons que tu fais l'analyse de ce match pour l'équipe. Donc du coup, oui, ça serait bien qu'à un moment, tu finisses par comprendre ce qui s'est déroulé.
Non, mais je vais le revoir, le match, de toute façon.
Donc, parce que t'es censé éclairer les gens.
Je me poserai devant le plateau de 100% foot pour écouter les analyses de Flo Gazan et Stéphane Powels pour y voir un peu plus clair sur la lecture de ce match. Flo, je te repose la même question que j'ai posée à Christophe. Tu es Jorge Sampaoli. Donc déjà, tu vas beaucoup à la salle. Quel est à la fois le plan de jeu et les joueurs sur qui tu mises pour le match retour?
Je pense que je fais pas tant de changements que ça par rapport à l'aller. Je pense que, comme Christophe, j'ajoute Under. Mais peut-être que le changement, c'est de mettre Payet à gauche, sur un côté. Parce que, comme je le disais, le Feyenoord a vraiment mis son pressing, focalisé son pressing sur le 3 et 2 de l'OM, avec comme je disais, Sinisterra et Nelson, qui étaient très hauts, très axiaux pour presser. Et du coup, je me dis que avoir Payet à gauche d'un côté et Under à droite, ce sont peut-être les deux zones où ils vont avoir beaucoup d'espace et être disponible. Alors après, évidemment, il faudra réussir à les toucher, et là, ça, il faudra avoir des joueurs prêts à vite s'orienter vers les côtés pour les atteindre, mais ensuite, ça peut leur permettre de recevoir la balle avec un peu de temps et un peu d'espace, le temps d'avoir des projections, alors à la fois de Dieng, qui pourrait prendre la profondeur depuis l'axe, mais aussi des Gerson ou des Guendouzi, qui pourraient être trouvés en mouvement, au lieu d'être trouvés arrêtés, où ils étaient un petit peu plus en difficulté sur ce match. Donc je pense que tu t'as pas grand chose à changer du. En tout cas là, je parle avec le ballon. Sans la balle, je serais pas surpris que, même si ça dépendra aussi de l'approche de Feyenoord, mais que Sampaoli se garde le droit de pouvoir avoir ce Camara qui peut reculer dans la ligne défensive s'il y a trop d'appels à gérer et s'il faut un joueur supplémentaire. Donc je pense que la partie défensive, on va peut-être revoir le 5-4-1 qu'on a vu en début de deuxième mi-temps. Mais avec la balle, je serais pas surpris de voir Payet revenir sur le côté gauche, qu'il aime quand même pas mal, et Under à droite, histoire d'avoir peut-être un peu moins de profondeur, mais ces points d'ancrage sur les côtés pour pouvoir ressortir la balle, la garder, parce qu'après, une fois, je pense que t'as fait reculer Feyenoord dans sa moitié de terrain, t'auras quelques arguments pour les déstabiliser, et en plus ça t'empêche pas non plus d'avoir des séquences où Payet rentre à l'intérieur, va demander la balle dans le dos des milieux et trouver quoi. Ça te permettra plus de variété par rapport à ce match où finalement il y en a eu assez peu en première mi-temps, évidemment je parle, puisqu'après en deuxième ça a bougé, mais l'entrée d'Harit sur l'aile gauche a quand même été intéressante de ce point de vue, et je me dis que voilà, la réflexion sera peut-être de mettre Payet à sa place. Après, moi, s'il fallait aller jusqu'au bout, je mettrais Harit à gauche, Payet toujours dans l'axe et Under à droite, et j'enlèverais un des milieux, mais je pense que Sampaoli n'ira pas jusque-là de toute façon.
Pour mettre un 9 devant Payet, tu veux dire?
Oui. Enfin, oui. Après, de toute façon, il te faut toujours cet attaquant, l'attaquant de pointe. Mais oui, non, je l'imagine pas en fait aligner Payet, Harry, Under. Enfin, je vois pas l'intérêt d'aligner Payet, Harry, Under. Et je vois pas Sampaoli aligner Payet, Harry, Under plus un autre joueur. Je pense qu'il gardera ses trois milieux derrière. Donc, ouais. C'est pour ça que j'insiste pas trop sur cette hypothèse-là.
Mouillez-vous. Il y a eu 1-1 entre Leicester et la Roma, donc sur le match aller qui était en Angleterre. Il y a eu 3-2 pour Feyenoord à domicile. Quelle sera la finale de la première Ligue Europa conférence de l'histoire?
Je vais le dire comme ça, je vais exorciser. Je vais dire Marseille-Roma, victoire de la Roma, parce que les gens le savent peut-être pas, mais je suis hater d'une seule personne dans le monde du football, c'est José Mourinho.
Non, c'est faux, c'est complètement faux, il y a au moins une autre personne.
Peut-être.
Bon, je sais que tu es hater.
Peut-être, mais pour tout l'aspect hors terrain de José Mourinho, et j'ai très peur qu'il la remporte et qu'il puisse ajouter ça à son cabinet de trophées, même s'il a fait un match visiblement assez dégueu face à Leicester avec seulement 4 tirs, mais... Pour le coup, il y a quand même une vraie belle... Je pense que c'est peut-être le plus beau bel effectif des 4 équipes encore en lice du côté de la Roma. Et je pense sinon que Marseille-Feyenoord, au-delà de ce match-là, le deuxième de Ligue 1, pour moi, est meilleur que le quatrième d'Eredivisie. Et
ils sont troisième.
Ouais, ils sont troisième. Bon, ils sont quasiment quatrième. Ils sont quatrième dans mon cœur parce qu'ils sont juste devant Twente.
C'est justification.
Le pire, c'est que je l'ai tenté juste avant de cliquer. Je fais, allez, mets pas de pause dans ta phrase. Ne clique pas. Fais-le de tête. Et en fait, non. Oh. Mais non, mais de manière générale, je pense que Marseille est une meilleure équipe. Après, le scénario fou peut, enfin, augmente les variables par rapport au match très cadré. Mais je pense que autant Roma-Leicester, ça peut tourner dans les deux sens, mais j'ai peur que la Roma passe. Autant Marseille, pour moi, est une meilleure équipe. Et si je pense que ça sera le même gardien, j'ai pas vérifié l'absence de notre ami le gardien titulaire de Feyenoord, mais je frappe de 20 mètres à chaque fois que t'approches, envoie des centres, parce que putain, sa sortie encore sur le corner où Saliba met sa tête à côté, elle est quand même assez dramatique.
Ouais, il fait un bel arrêt sur la frappe de Payet, mais là, son arrêt debout en trébuchant sur la frappe de Dieng, c'était assez...
Ouais, bah, il fait l'arrêt, mais c'est vrai que bon, même les arrêts réussis, on dirait des choses ratées, quoi. Mais non, je pense que vraiment, Marseille a des vraies bonnes chances, mais Feyenoord a été, je trouve, enfin, moi, c'était meilleur que ce que je pensais, en fait. Je pensais vraiment que cette équipe allait se jeter un peu n'importe comment et que t'allais pouvoir l'avoir, et en fait, ça reste quand même assez, assez intelligent dans la façon de se livrer.
Je pense aussi que Marseille et la Roma vont passer avec le public qui va être en feu à domicile, que ce soit au Vélodrome ou à l'Olympico. Je sais pas ce qu'en pense Flo.
Du coup, moi, je vais dire Leicester Feyenoord. Comme ça, il y a au moins quelqu'un d'entre nous qui aura
50% raison, quoi. Parce que
bon. Qui aura 50% raison, ouais, voilà.
La finale est le 25 mai. Le 25 mai, c'est un mercredi. Voilà, je vous le dis. Si c'est Leicester Feyenoord, on verra. On verra si on est devant notre poste. Voilà, je pense qu'on a fini pour ce match et pour la Ligue Europa Conférence. On n'a pas évoqué la Ligue Europa parce qu'on n'a pas vu les matchs, tout simplement.
Mais
notre ami Ballon d'Or, Angelinho,
a marqué. Oui, une volée de 20 mètres et ça part pour une finale 100% allemande, a priori. Même si West Ham, je conseille aux gens de regarder les stats, West Ham a fait plus de la moitié de ses XG sur coup de pied arrêté, alors que Francfort a 0 XG sur coup de pied arrêté. C'est-à-dire, t'as vraiment, je crois que c'est genre 2-20 à 1-20, mais il y a une équipe qui a tout fait dans le jeu et l'autre qui a fait 70% sur coup de pied arrêté. Donc quand t'es aussi dominant sur coup de pied arrêté, ça peut tourner au retour. Autant Rangers-Leipzig, je pense que Leipzig est bien au-dessus et il y a eu plus de 70% de possession. Je pense vraiment que Leipzig a une bonne chance d'aller au final. Alors après, j'espère ne pas leur porter malheur. Autant sur l'autre match, je pense que rien n'est fait.
Et on passe à la Ligue des Champions et on va commencer par la victoire de Liverpool contre Villarreal 2-0. On va regarder les compositions pour commencer. Bon, du côté du Liverpool, c'était assez classique avec la titularisation de Konaté en défense centrale avec Van Dijk, puisqu'en Ligue des Champions, Konaté est les titulaires. Évidemment, Alisson dans les buts. Robertson à gauche, Arnold à droite, un milieu à 3, Fabinho, Thiago, Henderson et une attaque Diaz, Mané dans l'axe et Salah à droite. Du côté de Villarreal, Rulli dans les buts, une défense à 4, Foyce, Albiol, Torres et Stupinian, un milieu à 4 également avec Lo Celso, Capou, Parejo et Coquelin et une attaque à 2 avec Chukwueze et Danjuma. Comme ça se dit apparemment, je le disais dans le Juma, mais c'est dans Newman. 19 tirs à 1, Florent. Est-ce qu'il y a plus à dire que ça?
Non, pas vraiment. Pas vraiment. On a vraiment eu le scénario qui était attendu, c'est-à-dire un Villarreal bloc bas comme face au Bayern, un Villarreal qui essaye de ressortir, mais qui, cette fois-ci, face à Liverpool, n'y arrive absolument pas, quasiment pas. En début de partie, ils ont essayé de faire des sorties de balles, de faire du jeu long, du jeu direct, de roulis vers les attaquants. À ce moment-là, on a vu Konaté et Van Dijk prendre tous les ballons de la tête et Liverpool gagner les deuxièmes ballons la plupart du temps. Et ensuite, quand ils ont essayé de sortir au sol, il y a eu des bribes par-ci par-là, mais à chaque fois que tu te disais « Ah tiens, il y a peut-être un début de décalage », tu voyais que dans le repli, dans l'intensité, le repli de Liverpool devançait toujours ce que pouvait tenter de faire Villarreal. Et là, je parle même pas des ballons perdus par Parejo ou Capou quand ils étaient trouvés à l'intérieur et que ils avaient pas de solution, ils tergiversaient et finalement ils se faisaient reprendre par les attaquants. Donc globalement, on a peut-être vu Liverpool faire le match que aurait dû faire le Bayern au tour précédent pour sortir Villarreal. Là, on a vraiment du mal à imaginer comment Liverpool peut ne pas aller en finale. Mais bon, la Ligue des Champions est capricieuse, elle l'a déjà montré. Mais là, je pense que l'écart est quand même gigantesque et qu'il n'y a même pas le facteur individualité supérieure côté Villarreal qui, sur un match, pourrait rendre la chose un petit peu, comment dire, un petit peu hors du temps. Là, bon, on a eu le match attendu, le résultat attendu et Liverpool est quasiment en finale.
Christophe, depuis quelques mois, on avait identifié Liverpool, City et le Bayern comme les trois mastodontes du football européen. Villarreal en a éliminé un, c'est le Bayern. Qu'est-ce qu'a fait de différent Liverpool ? Florent parlait du repli. Est-ce que c'est la seule... seule différence avec le Bayern ? Même si on sait que le Bayern, normalement, presse plutôt bien et de manière plutôt agressive. Qu'est-ce qui a été beaucoup mieux fait du côté de Liverpool ?
Je pense que tous jouent vraiment sur la face sans ballon. Parce que, et c'est ça aussi qui rend un éventuel comeback assez improbable, c'est que Villarreal, même sur les exploits, c'était alors évidemment une défense très solide où il n'y a eu quasiment aucun match avec des buts encaissés en première période. Je crois que c'est 9 sur 13 où ils ont gardé leur cage inviolée en première période. Mais
Là, il y a encore 0-0.
Oui, c'est pour ça que je... Mais il y avait quand même une bonne utilisation du ballon, c'est-à-dire que tu pouvais avoir 30, 35, 40% de possession, mais t'essayais de valoriser le cuir, t'essayais de bien le faire tourner, de trouver des espaces. Mais la phase sans ballon de Villarreal a jamais été incroyable, c'est-à-dire t'avais pas des moments où ah putain on va surprendre l'adversaire sur un pressing haut, articulation que peut potentiellement avoir l'Atlético, c'est-à-dire que l'Atlético va un coup défendre bas et au retour face à City ça allait agresser. Là Villarreal c'était un peu ce côté s'ils arrivent à bien ressortir les ballons, à bien animer leur sortie de balle dès les 6 mètres. Alors là je pourrais pas dire comment ils ont essayé de ressortir sur les 6 mètres parce que le réalisateur n'aimait pas le foot et a décidé de montrer aucun 6 mètres. Donc voilà, après on s'étonne que les gens ne comprennent pas le foot, mais Villarreal bosse les 6 mètres plus que n'importe qui et le réalisateur montrait des ralentis de Luis Diaz en train de cracher et 4 ralentis de tir passant 8 mètres à côté. Donc ça m'a un peu flingué, j'avais été à deux doigts de quitter le match tellement ça m'a gonflé.
Après Villarreal n'a pas réussi souvent à ressortir.
Mais en fait quand ça revenait à l'écran, voilà, le ballon était déjà
perdu.
Donc j'aurais aimé savoir au moins quelle était l'ambition, qui perdait la balle, etc. Mais tout ça pour dire que Villarreal ce coup-ci n'a pas réussi à sortir le ballon, n'a pas réussi à faire ses transversales d'un côté à l'autre parce que simplement je trouve que la phase sans ballon de Liverpool à ce niveau-là elle est vraiment immense et il faudrait en gros un profil un peu Verratti par exemple à la place de Parejo, peut-être que lui du coup pourrait ressortir de la pression et ensuite faire une passe vers l'avant et de là tu peux espérer faire des choses. Et l'autre chose au-delà de l'aspect où faut quand même vraiment d'abord valoriser Liverpool qui face à un tel profil d'adversaire est pour moi quasiment intouchable parce que tu peux pas jouer court parce que le pressing est énorme, tu peux pas jouer long parce que les gabarits en face sont trop forts, mais en plus il n'y avait pas Gérard Moreno. C'est-à-dire que là, Villarreal joue quand même dans une composition où t'as, on va dire, un numéro un peu 8-6 en Coquelin sur un côté et Lo Celso qui est une espèce de 8-10 sur l'autre. Bon, ça a pu fonctionner. Et devant, c'est deux ailiers, Donnarumma et Chukwueze. Or, Gérard Moreno est pas non plus un pur neuf, mais c'est quand même c'est un vrai attaquant qui est capable de garder les ballons et qui allait s'excentrer dans les zones. Là, il se serait déplacé dans la zone Alexandre-Arnold s'il avait joué ce match-là. Et là-dessus, en gros, quand allongé, même si allongé sur des plus petits gabarits, sur des transversales, il n'y avait pas de vrai joueur de conservation, quoi, parce qu'encore une fois, dans Nyuma Chukwueze, ils prennent la balle, ils courent, tu peux les lancer dans l'espace, mais là, concrètement, il n'y a personne dans cette équipe qui est capable de vraiment bien caler le ballon de haut jeu.
Et ça, c'est ce que Moreno avait très bien fait face au Bayern, notamment lors de la première mi-temps du match aller. Voilà, pour compléter ce que dit Christophe.
Chukwueze a fait à une reprise une différence, là où il arrive à devancer Van Dijk, et derrière, il s'est pris le frigo américain, ou plutôt le frigo néerlandais. Sur un bloc, Flo, oui.
Jusqu'ici, je l'ai entendu à Bordeaux.
Un pays à l'autre.
Personnellement,
D'ailleurs, c'est rare que Van Dijk prenne un jeu comme ça. Je me suis
dit, il y a eu le souffle, mes fenêtres ont bougé. Il y a eu le souffle sur le contact. Mais la domination physique des deux centraux de Liverpool, c'est quand même quelque chose de très marquant sur le match, surtout quand tu repenses au match précédent de Villarreal où justement face aux défenseurs du Bayern, Moreno, Danjuma ont réussi à leur poser quelques soucis. Alors là je parle surtout du premier match évidemment où la défense du Bayern a eu beaucoup plus de mal à gérer les sorties de balles de Villarreal. Et quand je parle de la défense, je parle à la fois de la ligne défensive mais aussi des lignes un peu plus haut où t'avais l'impression notamment sur la première mi-temps que le Bayern ne savait pas exactement comment prendre le pressing du sous-marin jaune, enfin prendre les sorties de balles du sous-marin jaune plutôt. Donc ça c'était une vraie problématique que Liverpool a su régler. Une fois que t'as réussi à régler ça en fait face à un tel adversaire, la seule question qui se pose ensuite c'est à quel moment tu vas réussir à marquer. Et autant sur la première mi-temps il y a une grosse occasion, c'est Mané, c'est assez tôt dans le match, je crois, l'occasion de Mané, la tête de Mané, il me semble. Mais il me semble que Liverpool termine à 12 tirs en première mi-temps. Il y a cette grosse occasion, mais derrière, les 11 autres tirs équivalent à 0,40 XG. Donc ça, ça rappelait un petit peu l'incapacité du Bayern à se créer justement de vraies occasions face à un tel bloc. Et après, bon, en deuxième, finalement, ça se débloque avec ces deux buts en grappe qui arrivent à 2 minutes d'intervalle et ce premier but un petit peu bête quand même, encaissé par Villarreal, qui, même s'il est bien construit, bon voilà, ça finit un centre dévié par Estupiñán. Même si tu peux te poser la question, si le centre n'est pas dévié, je crois qu'il y a deux joueurs de Liverpool qui sont en avance dans la surface de réparation sur l'action.
Christophe, t'as mentionné la phase sans ballon de Liverpool en disant qu'elle était immense. City, on va en parler après, a fait aussi une phase sans ballon très intéressante contre le Real Madrid et très agressive. En quoi celle de Liverpool, toi, t'as particulièrement impressionné ?
Bah, c'est la lecture des trajectoires, notamment. Alors, c'est évidemment le fait que toute la première ligne bosse, déjà, ça, mine de rien... Alors, on le savait avant, et c'était, pour moi, limite l'interrogation, c'était de savoir à quel niveau il allait se hisser sans ballon. Mais c'est vrai que l'intégration d'un Luis Diaz, par exemple, qu'il a depuis quelques mois et qui est déjà devenu le troisième homme de cette ligne offensive, tu sais, de par son profil de jeu, de par même son parcours, hein, parce que c'est quelqu'un qui a eu un parcours quand même hyper cabossé, qui a dû toujours bosser énormément pour réussir à s'en sortir. Tu savais que Luis Diaz serait dans la bonne mentalité. Mais là, t'as vraiment... Alors, je suis désolé de citer ça, c'est un peu gratuit, mais quand tu vois notamment la première ligne du PSG... tu te dis, ce type d'équipe-là, je cite le PSG parce que c'est l'emblème de ça, finalement là t'as trois joueurs qui avec le ballon sont peut-être pas forcément hyper loin, voire même au même niveau, voire même au-dessus de certains joueurs qui dans d'autres équipes ne bossent pas forcément. Et rien que ça, déjà ça complique quand même énormément la tâche. En plus, mine de rien, les... Alors ils peuvent être capables de faire des belles choses, hein, mais en plus les quatre défenseurs de Villarreal sont pas non plus tous incroyables avec ballon. C'est plutôt sur les dégagements, là je regardais, il y a 13 dégagements pour Raúl Albiol et 9 pour Pau Torres. Pau Torres qui est l'un des joueurs dans ce profil-là qui est peut-être l'un des meilleurs pour défendre bloc bas, alors que la plupart des défenseurs centraux espagnols sont meilleurs pour jouer un peu loin de leur but, type Laporte. Mais quand tu vois les 5 interceptions de Thiago, les 4 de Fabinho, vraiment, en gros, la première ligne t'embête vraiment, t'oriente dans des directions où tu veux pas forcément aller, et c'est-à-dire que bah là t'étais souvent obligé, mais en plus c'est ton jeu, de jouer intérieur sur Parejo, sur Capou, notamment sur Parejo, et là-dessus on voyait, alors d'un côté j'ai envie de blâmer Parejo qui pourrait aller plus vite, manque de vivacité, il prend l'information mais le temps qu'il se retourne, etc., c'est un peu lent. De l'autre, il y a quand même la marée qui vient sur lui, et je pense qu'il y a des moments où vraiment il arrive à s'en sortir, à faire la différence en championnat, en faisant exactement la même chose, en allant exactement la même vitesse, sauf que là l'intensité en face est vraiment hyper hyper bonne. C'est, alors, pour faire un peu une comparaison habituelle, hein, mais c'est quand tu vois les équipes comme les Celtics où en gros t'as aucun match-up facile, et au final même si t'arrives à passer, t'es réorienté vers des mecs qui derrière en deuxième rideau vont te défoncer. Et là c'est pareil, c'est-à-dire même si t'arrives à passer la première ligne, la deuxième elle vient et elle sait exactement sortir dans le bon timing sans forcément faire faute, ce qui peut être le cas par exemple de City où ça fait faute quand ça sort dans le mauvais timing. Et non, c'est simple et c'est compliqué à la fois. C'est hyper simple à décrire sur le côté, bah ils sont tous dans le bon tempo, ils savent tous bien fermer les lignes de passe, etc. Et c'est hyper compliqué parce que ça demande beaucoup de timing, beaucoup de compensation. Et franchement, pour moi, l'un des seuls moyens que tu peux avoir vraiment de battre cette équipe Liverpool, alors évidemment il faut que quand tous les joueurs de Liverpool sont à leur meilleur niveau, mais c'est genre d'attaquer le dos des latéraux. Sauf que là il aurait fallu genre trouver Lo Celso avec du temps qui puisse lancer dans Danluma en profondeur. Enfin voilà, et en gros t'arrivais même pas à cette phase 2 en fait. Dès la première étape de ton plan, ça n'allait plus, et c'est pour ça que Rulli allonge, alors que je pense que vraiment le plan pendant les 35 premières minutes c'est pas du tout d'allonger. Or là, en seconde période, peu avant le but notamment, à chaque fois ça faisait fin de sortie court pour ensuite allonger, et tu sentais vraiment que l'ambition avec ballon elle était disparue, et que ça essayait plutôt de tenir le 0-0 parce que je pense que Villarreal ne voyait vraiment pas de moyen de s'en sortir.
Bah, c'est intéressant que tu parles des solutions pour embêter Liverpool, parce que c'est la question que j'allais poser à Flo, parce que c'est une équipe qui marche sur l'eau cette saison. Ils sont en course pour un quadruplé toujours, parce qu'ils ont gagné la finale de Coupe de Ligue, ils vont jouer la finale de la Cup contre Chelsea, ils sont à un point de City en championnat, et là ils sont bien embarqués pour aller en finale de la Ligue des Champions. Ils ont perdu 3 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, donc une défaite à West Ham, une défaite à Leicester, et une défaite à domicile contre l'Inter après une victoire au match aller en Ligue des Champions. Mais l'Inter avait bien embêté Liverpool. Est-ce que les Italiens ont montré peut-être des pistes pour les futurs adversaires de Liverpool, y compris Villarreal au match retour.
Alors pour te répondre, il aurait fallu que je voie ce match.
Moi, je pensais pas que vu. Tu l'avais vu. Je sais plus ce qu'on a vu chacun, mais en tout cas, on avait. Christophe l'avait peut-être plus vu. Moi, je l'avais vu en tout cas. Et l'Inter avait sur les sorties de balle réussi à se créer de l'espace, mais ils étaient tombés sur la muraille Konaté Van Dijk au bout du chemin.
Ben, c'est ça le problème aussi quand tu compares aujourd'hui aux autres équipes du dernier carré. Cette muraille là, c'est quand même la plus solide sur les dernières semaines. En tout cas, j'ai l'impression. Celle de City, bon, on en parlera après, mais bon, Laporte n'a pas été incroyable sur la deuxième mi-temps face au Real Madrid. Celle du Real, même globalement la défense du Real, ça prend quand même pas mal de buts sur les dernières rencontres. Ça se, même si ça peut avoir des séquences où c'est plutôt solide en bloc bas, c'est vrai que dès que ça accélère, dès qu'il y a de la transition, c'est pas toujours très simple pour eux. On reviendra dessus après, mais c'est vrai que c'est surtout sur ces séquences-là que City leur a fait beaucoup de mal. Là, t'as l'impression que Konaté et Van Dijk peuvent gérer un peu tout. Si Liverpool doit subir, ce qui est très rare, à mon avis, ils sont quand même difficiles à bouger dans la défense basse. Et puis, ils sont capables de rester très haut. Là, moi, j'ai vraiment été frappé sur ce match par les 5-10 premières minutes où tu vois Rulli qui allonge. Parce que j'imagine qu'Emery a dû demander à ses joueurs... Sur les premières minutes, on évite de prendre des risques, on essaie de tout mettre dans leur camp et puis on voit comment ça se passe, on essaie de pas prendre la marée d'entrée, quoi. Le truc, c'est que, en fait, dès qu'il allongeait, ça retombait sur Van Dijk, ça retombait sur Konaté et la balle revenait quasiment dans leurs 30 mètres, quoi, sur le coup. Et ça, c'était compliqué. D'ailleurs, au total, Liverpool gagne 12 duels aériens dans le match. Là, j'ai les stats de WhoScored. Konaté en gagne 5, Van Dijk en gagne 4. Et il y en a 5 gagnés dans les 10 premières minutes, je crois, du match. Donc voilà, c'est un petit peu la séquence que je décrivais. Et ça, là-dessus, quand on connaît l'importance des charnières hein, dans les matchs couperets, d'avoir ces défenseurs fiables qui peuvent rattraper les derniers décalages qui peuvent être créés par les adversaires, les joueurs en dernier rideau, quasiment avant le gardien, bah, quand t'as deux mecs qui sont à ce niveau-là, à ce moment-là de la saison... Tu t'es plutôt pas mal pour bien la finir, je pense.
Dernier mot sur ce match, messieurs, il faut qu'on parle de Trent Alexander-Arnold. 4 dernières passes sur ce match. Lequel est le plus inspiré pour en parler ? Il y a eu des passes de tous les styles, il a été présent offensivement. En plus, il est couvert défensivement quand c'est connecté plus facilement en termes de vitesse. Il y a Anderson qui est pas loin dans la zone, je ne sais pas lequel a le plus envie d'en parler, mais il nous a encore sorti, comme il avait fait d'ailleurs... lors du tour précédent, des passes improbables et très très précises.
Ouais, bah deux passes hein, en exemple. La première, c'est sa reprise de volée en une touche qui se transforme en centre vers Salah en première. Je crois que c'est Salah qui fait la reprise après en première mi-temps qui est contrée. Celle-là, je pense qu'il y a très peu de défenseurs latéraux et même de joueurs tout court qui sont capables de la faire. Et en deuxième, j'en retiens une où il est plus à l'intérieur parce qu'il est souvent allé parfois en position de troisième milieu axial sur les phases de possession de Liverpool.
Ça bouge pas mal dans le triangle latéral relayeur ailier à Liverpool.
Ouais, avec
surtout à droite. Parce autant Robertson reste surtout ligne de touche, mais Alexander-Arnold vient souvent
intervenir. Ouais, vu qu'Anderson peut prendre la largeur, comme il l'a fait d'ailleurs sur le but et le CSC d'Estupinian, vu que c'est Jordan Anderson qui fait le centre, il me semble. Et oui, il met une passe en une touche sur une combinaison un peu à l'intérieur là, en profondeur. Je me demande si c'est pas la passe sur laquelle Estupinian prend carton pour faute de Salah. Mais aussi, il met une passe en une touche où j'ai fait, bon... Y a-t-il un meilleur droitier passeur aujourd'hui en Europe ? Parce que autant des gauchers, t'as Messi, t'as Neymar qui ont pied gauche, autant pied droit. Des joueurs qui ont une palette aussi large, qui peuvent faire autant de choses, je sais pas.
De Bruyne peut-être.
Ouais, c'est le premier qui viendra à l'esprit, mais...
Neymar a les deux pieds, t'as parlé du pied gauche de Neymar, mais il a vraiment dans le registre de passe, il a les deux pieds, donc c'est un peu un cas particulier. Mais
j'ai du mal à trouver mieux quoi.
Sachant que selon les positions des joueurs, t'as en plus pas exactement les mêmes types de passes, tu vois. C'est-à-dire qu'un quelqu'un comme Kimmich qui a un excellent pied droit, du coup exploite d'autres facettes de son jeu maintenant qu'il joue intérieur par rapport au fait qu'il était latéral. Alors je dis pas que Kimmich a un meilleur pied que Alexander-Arnold, mais je veux dire quand il était latéral, tu le voyais beaucoup plus centré, tu le voyais faire des renversements, etc. Là maintenant c'est plus des sorties de pression, une ou deux passes qui cassent les lignes. Maintenant il est plus dans un registre Thiago. Et forcément, tu vois peut-être sur certaines séquences un peu moins la palette. En plus, Liverpool aime bien renverser le jeu, donc tu as en plus la possibilité de voir ses passes.
Je vous propose quelques noms. Modric.
C'est vrai qu'il fait pas beaucoup d'extérieur, Alexander-Arnold, pour l'instant.
Ouais, un peu moins. Il centre pied gauche assez régulièrement. J'en avais un autre en Liga que j'ai oublié, c'est pas grave. Savagnier, dans la variété des centres et des frappes, quand même, qui est capable de lâcher des ballons un peu de toutes les surfaces du pied. Et puis Payet, quand même, qui a un beau pied droit. Mais il y en a surtout dans les championnats étrangers que j'oublie.
Et puis tu parles de numéro 10.
Pedri est pas mal, mais. Oui. C'est vrai que non, mais latéral, oui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas comme ça. Mais De Bruyne a un peu les mêmes centres parfois quand il reçoit le ballon d'une touche, justement dans le demi-espace, ou quand il est collé à la ligne de touche et qu'il centre fort devant le but, où il vise des zones plus que des joueurs. Après, Alexander Arnold, c'est sur en plus des distances absolument considérables. Christophe, en un mot, est-ce que Villarreal
oui,
peut se qualifier
comme je peux aussi me mettre à courir un marathon après cet épisode. Va, je vois pas comment, sauf scénario. Après, tu me diras. Enfin, tu vois, Benfica, notamment, a mis, entre guillemets, le feu sur certaines séquences à Liverpool. Enfin, on a vu que cette équipe pouvait être friable, mais c'était un Liverpool B qui avait de l'avantage, qui se préservait un peu pour le match du week-end, et il y avait un joueur comme Núñez, et là, je le vois pas dans le côté Villarreal, et ça revient, pour boucler la boucle, à ce que disait Florent tout à l'heure, sur le côté joueur qui va un peu te valoriser un match correct, mais juste en convertissant tout ce qui se passe. Núñez était un peu dans un registre Benzema sur ce match-là, et même sur sa saison. La Villarreal, on est plus sur une équipe à qui il faut généralement 5 occasions pour marquer un but, qu'une équipe à qui il faut une occasion pour marquer 5 buts.
Très bien, mais on va passer à l'autre match, l'autre demi-finale de Ligue des Champions, c'est la victoire de Manchester City, 4-3 contre le Real Madrid, victoire à domicile pour les Citizens. Les compositions du côté des Citizens, Ederson dans les buts, une défense à 4, Stones, Diaz, Laporte, Zinchenko, en tout cas sur le papier, un milieu à 3, Bernardo, Rodri, De Bruyne, et une attaque, Mahrez, Jesus, Foden. Du côté du Real, Courtois dans les buts, une défense à 4, Carvajal, Militao, Alaba, Ferland, Mendy, un milieu à 3 avec Kroos en sentinelle et non pas Casemiro, Modric et Valverde relayeur, Rodrigo à droite, Vinicius à gauche et Karim Benzema en pointe, Karim Benzema auteur d'un doublé, comme d'habitude ces derniers temps, dès qu'il y a un match important en Ligue des Champions. Alors, Christophe, tu avais une prise de position que tu as annoncée dans notre préambule d'émission. Tu voulais comparer les plans défensifs de Villarreal et du Real, même les plans globaux, et tu voulais nous dire que finalement Villarreal n'avait pas fait un match moins bon que celui du Real, malgré la faible quantité de tirs de Villarreal et malgré les 3 buts du Real. Explique-nous tout ça.
Je vais même faire pire que ça, je vais dire exactement quelle était la conversation qu'on a eue en coulisses. Je voulais animer l'émission, tu m'as dit non, j'anime.
Oui,
je vous préviens, en fait, je voulais animer notamment parce que ma vision de ce match-là est totalement à rebours de tout le monde. Et même si je reste quand même solide sur mes appuis et que ce que j'ai senti sur le moment, j'ai pas envie de le déjuger parce que les gens sont pas forcément de cet avis. Mais moi, j'ai pas pris énormément de plaisir devant ce match-là.
Ah, d'accord.
Et voilà, ça c'est le premier truc. Et le deuxième, c'était de dire, je te préviens, si je n'anime pas, je te dirai que le plan de Villarreal était meilleur que celui du Real. Donc du coup, c'est fait maintenant. Et effectivement.
Mais est-ce que le plan était meilleur ou est-ce que son exécution était meilleur, ou les deux?
Non, mais en fait, le truc, c'est que j'ai vraiment l'impression que le Real est quasiment pas coaché sur ce match-là, et que c'est une équipe qui peut prendre 6-1, et que ses individualités, combinées un petit peu à certaines défaillances adverses, permettent d'avoir un 4-3. Encore une fois, je respecte totalement les gens qui sont pour un football des joueurs, c'est une vision tout aussi légitime que la mienne. Moi, je préfère le football des plans de jeu, etc. Et vraiment, quand je suis sur un match, j'ai envie, alors c'est une subjectivité, mais qui évolue au fil des matchs, que l'équipe qui pour moi a le meilleur plan de jeu passe. C'est-à-dire que c'est pas du tout pour faire pro Guardiola, anti-Real, anti-Ancelotti, puisque j'aurais trouvé tout à fait légitime que Guardiola, après le match dégueulasse de City au retour en quart de finale face à l'Atlético, que l'Atlético passe. Donc c'est vraiment pas uniquement pour dire ah, City est une très grande équipe, parce que sur le tour précédent c'était pas du tout le cas, mais sur ce match là pour moi il y a un écart colossal et ça m'embête un petit peu, même si gloire à Dieu il n'y a plus du tout le but à l'extérieur, où j'ai l'impression que de plus en plus de gens rejoignent ma team qui trouvaient que cette équipe enfin cette règle n'était pas forcément incroyable. Honnêtement, quand je vois l'animation générale du Real, Kroos en sentinelle, la façon dont s'anime le milieu, et puis même de manière générale, je trouve qu'au-delà de la micro-tactique, enfin en tout cas l'échelle de ce match-là, c'est plus vraiment une validation sur le rapport de force de ce que fait City semaine après semaine et de ce que fait le Real semaine après semaine. Pour moi, il y a quand même un plus gros écart entre les plans de jeu sur ce match-là que sur le match du lendemain, parce que pour moi, l'écart entre les individualités est bien moindre entre City et le Real, et pourtant j'ai vraiment vu une équipe qui était très largement au-dessus de l'autre à mon sens.
Bah, commençons par le plan de jeu de City, donc Flo, puisque c'est quand même le plan de jeu de City qui décide de la plupart des matchs. Du pressing, très agressif.
Ouais, en début de partie notamment, pour entrer
on avance sur toutes les passes vers l'arrière, on va presser jusqu'au gardien, quitte à parfois se désorganiser, mais tant pis, on va les mettre en crise de temps. Et c'est vrai que dans ce domaine-là, City et Liverpool, de toute façon, sont les deux meilleures équipes du monde pour te...
Oui, ils ont fait un très gros début de match de ce point de vue. Là où ça faiblit un petit peu, c'est que quand City n'arrive pas à récupérer rapidement le ballon, c'est là que Liverpool a plus d'arguments pour maintenir l'intensité sans doute plus longtemps sur le terrain. Et c'est là qu'une différence se fait. Puis City a aussi une défense centrale qui est moins dominante et qui est capable de moins gratter de ballon sans doute que celle de City. Donc là-dessus, mais c'est vrai que City fait un très gros début de match. Alors évidemment, c'est sanctionné, enfin c'est récompensé pour eux dès la deuxième minute avec l'action de Mahrez qui repique intérieur, qui donne à De Bruyne. Mais c'est vrai que
d'ailleurs Liverpool a fait quasiment la même avec Salah Mané. Hein,
oui, matchs. C'est quasiment la même passe en effet. Ouais. Bah, c'est là la grosse occasion de Mané dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est vrai que t'as moins senti ce côté. Enfin, t'as senti ce côté rouleau compresseur et puis petit à petit, tu sentais que le Real réussissait à ressortir un petit peu, à revivre des séquences qu'il avait pu vivre dans les matchs précédents. Et moi, ce que j'ai retenu aussi du Real, c'est que sur leur bloc bas, ils ont finalement pas tant concédé que ça de mon point de vue, parce qu'il y avait je pense que c'est peut-être le seul truc un petit peu adapté à l'adversaire, c'est cette ligne de 5 défensive qui pouvait se dessiner côté Real de temps en temps avec Valverde qui allait combler des espaces dans la défense de manière à bloquer tous les couloirs de jeu, empêcher des projections dans les demi-espaces et un petit peu couvrir les appels dans les 30 derniers mètres, ce qui fait que le Real a, de mon point de vue, moins concédé en bloc bas que sur des séquences de transition, puisque je crois que les occasions de City vers la demi-heure, là, ça commence par Mahrez qui rend fou Guardiola, il y en a une autre avant la mi-temps, il me semble, grosse occasion, je vais essayer de retrouver ça rapidement, mais c'était plus sur de la transition, lorsque le Real justement a essayé de sortir, essayé d'aller presser, et que City déjouait ce pressing, et donc voilà, c'est plus sur des transitions que j'ai trouvé City dangereux sur ce match-là que sur des phases placées. Donc voilà, après ouais, dès que le Real a réussi à mettre un petit peu le pied sur le ballon, tu sentais que City était beaucoup moins à son aise. Et bon, après ça marque sur une demi-occasion pour Benzema sur le premier, et puis il y a cet exploit de Vinicius sur le deuxième qui les remet dans le match, quoi, en gros.
Quel est le vrai écart sur ce match pour toi, Christophe?
Moi, je dirais 3-4 buts. Alors, faut encore une fois, c'est-à-dire... Et pourtant, je suis pas... Enfin, tu vois, c'est à froid, hein, donc on n'est pas...
Pourtant, t'es pro-Real, d'habitude.
Mais tu sais que j'aimerais vraiment, et je dis vraiment pas ça pour la formule, j'aimerais vraiment que le Real ait un jeu incroyable en ballon et un entraîneur que j'apprécie pour pouvoir compenser et dire vraiment du bien du Real. Tu vois, genre, moi, le Real des années 50, bon, ça fait une phrase totalement hipster, hein, mais je reste persuadé que Di Stefano est le 2e ou 3e meilleur joueur de l'histoire du foot, et vraiment, cette équipe, les Rento, etc., est incroyable, mais malheureusement, le Real, à chaque fois, adopte des plans de jeu et gagne avec des plans de jeu qui me font pas rêver. Donc forcément, je suis toujours obligé de prendre un peu la posture de père fouettard. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est quand même que passer, je sais pas, à la 55e... En gros, le but de Foden derrière, je trouve quand même que ça se rééquilibre un petit peu.
Ouais.
Bon, après, il y a le but de Foden, le but de Vinicius. On a estimé que c'est pas cette 55e, parce que les deux se suivent sur les 35 dernières minutes. Effectivement, on peut estimer qu'il y a un peu plus un côté but à but et que du coup, c'est une configuration qui convient plus au Real. Et que là-dessus, le fait que sur le reste de la partie, les deux équipes marquent un but, ça peut être assez cohérent. Maintenant, c'est vrai que... alors, c'est une façon assez simpliste de voir les choses, mais sur le but de Benzema... Celui de Vinicius est assez particulier. Bon, en plus, le fait est que, bon, ça, c'est la faute de personne, hein, mais que ça soit Fernandinho latéral droit parce que Stones latéral droit se blesse. Enfin, voilà, on est vraiment sur du bricolage. Et ensuite, si c'est pas Benzema, je pense que la porte, au lieu de rester sur lui, sort sur Vinicius et il n'y a jamais but, ou en tout cas, ça se passe pas comme ça. Mais, le but de Benzema, le premier, je pense qu'il y a, je sais pas, 5 occasions de City ratées qui sont plus évidentes, au minimum, que celle-ci. Il y en a 3 de Mahrez, il y a un sauvetage sur la ligne, il y a un poteau, enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais Bravo quelque part au Real aussi d'avoir réussi à ne jamais couler. Mais c'est vrai que bon, quand je vois qu'il y a des occasions de 3-0 avec derrière Joël Devin, je fais putain, c'est pas sérieux quoi, c'est toujours la même chose et du coup on va être obligé encore une fois de dire bah super plan de City et bravo à Benzema quoi. Genre Kroos a arrêté personne de tout le match, mais bon, tu mets un ballon dans la zone de Benzema, il y a but. C'est presque trop facile, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'aspect cheat code qui du coup est pas non plus hyper fun pour moi à analyser.
Après, est-ce que c'est pas un problème chez City aussi, au-delà du cheat code Real et du cheat code surtout Benzema?
Ah oui.
Est-ce que c'est pas le souci que dès qu'ils ont un temps faible, ils sont sanctionnés et qu'une action comme
ça. Mais là, en plus, il y a même pas forcément des temps faibles, tu vois. C'est ça qui me, parce que contre l'Atlético, ils ont des temps faibles qui sont pas sanctionnés. Là, ils prennent un but sur une remontée de 55 mètres dans la foulée d'un but.
Il y a quand même des petits momentum pour le Real après chacun de leurs buts, je trouve. Ouais. Où le Real a le ballon un peu, ou City tangue un petit peu.
Ouais, mais c'est des momentum. Ce que t'appelles momentum, ça se résume presque juste à des longues possessions en fait.
Ah non mais oui,
c'est des longues séquences de possessions.
Et c'est post-but, c'est pas pré-but. C'est surtout ça je trouve qui est intéressant. C'est-à-dire City prend un but et pas bien, mais ne prend pas de but derrière sur le moment où ils sont pas bien. Là, je trouve que les buts sortent, alors peut-être le premier, sortent un petit peu de nulle part, alors que City d'il y a 3 ans, c'était on prend un but,
après,
on est plus dedans, on en reprend deux dans la foulée.
Là, le premier but du Real, ça vient après 4-5 tirs en 10 minutes quand même. Donc il y a un petit truc, des petits tirs, hein, pas des énormes occasions. Mais oui, en effet, je suis d'accord avec vous. Mais je trouve qu'il y a quand même ce souci de pas tenir ces moments-là. Et déjà, l'Atlético avait failli les sortir, où ils avaient subi énormément de tirs. Là, sur le peu qu'ils ont subi, ça fait but à chaque fois. Bon, après, tu peux pas faire grand-chose quand Benzema met une volée du gauche comme ça, qui frôle le poteau et qui rentre.
Par contre, sur ta stat, pour moi, le but de Benzema, c'est le troisième tir, un tir contré, une tête d'Alaba sur corner et le but de Benzema. Donc,
Oui, bah je vois 4 tirs, mais peut-être que je suis sur.
Et avant, t'as la fameuse occasion de Mahrez aussi, qui joue tout seul, qui est la balle de 3-0. C'est dans les minutes juste avant.
Guardiola pète les plombs.
Absolument.
Quand Pep,
même si, tu vois, sur le ralenti, autant elle est pas facile à donner à Foden. Par contre, je comprends que quand t'es Guardiola et que t'as Mahrez et qu'il se retrouve à un contre un, tu t'attends à ce qu'il se mette sur son pied gauche et qu'il la donne en fait. Alors que là, il tente une frappe pied droit, il me semble que c'est ça l'action.
Mais j'ai l'impression que l'angle de passe est un peu ouvert au début et qu'après il est vite fermé.
Ouais, mais justement vu qu'il ferme l'angle de passe, il peut revenir sur l'autre pied pour la donner quoi. Je pense que c'est ça le reproche qui peut lui être fait sur l'action. Mais il faudrait que je la revoie pour être sûr. Mais c'est vrai que sur ce match-là, après, comme disait Christophe, il y a aussi un truc, une question qui se pose, peut-être côté Real en vue du match retour, c'est qu'en effet, il y a ce relatif rééquilibrage, dans les dernières minutes. Et pour moi, encore une fois, on en avait parlé un petit peu parce qu'il était encore entré en jeu lors des matchs précédents face à Chelsea et face au Paris Saint-Germain, c'est Camavinga
au PSG aussi.
Ouais, qui entre à la 70e à la place de Rodrigo et qui apporte quand même un impact que n'avait pas Kroos depuis le début du match.
Alors là, c'est Modric qui l'a remplacé pour une fois, c'est pas Kroos qui est sorti.
Je parle de Kroos parce que voilà, en termes d'impact sur le plan défensif, c'est plus lui qui était en question de par sa position de 6. Et tu peux te demander si le salut du Real peut pas passer par un Camavinga plus présent au retour, même si bon, ses entrées en jeu sont pertinentes aussi, que le Real au retour va récupérer Casemiro, puisqu'il me semble qu'il était suspendu pour cette demi-finale aller.
Non, il était là.
Ah, il était sur le banc, pardon.
Il était là, il était sur le banc.
Ok, il n'était pas fit.
Il était sur le banc, mais il n'était pas fit. Il y a
peut-être une question qui peut se poser là, même si, bon, je pose des questions, mais je sais que le 11 du Real au retour... La seule variable, ça sera est-ce que ce sera Rodrigo ou est-ce que ce sera Valverde qui sera dans le trio d'attaque avec Vinicius et Benzema, je pense.
Tu ne crois pas au retour de Marco Asensio dans le 11 titulaire du Real Madrid? Très bien.
Par contre, si le Real arrive à être champion d'Europe avec Carvajal titulaire latéral droit, c'est exceptionnel parce que c'était personne n'en parlait quand le Real gagnait ses Ligues des Champions.
On s'en déclare,
alors que franchement, il était généralement assez bon et zéro erreur. Et bon, il a eu des prépares physiques et tout, mais là, c'est quand même compliqué. Militao à la barre se rate parfois sur ce match-là, sur pas mal de séquences, mais à la barre revenait juste pour ce match, et c'est pas forcément facile, et honnêtement, c'est quand même beaucoup plus facile sur ce contexte-là d'être Guardiola où tu bosses dans le même système, dans la même approche depuis des années, où t'es le Real, t'as quand même un retard structurel sur cette façon de jouer, où Ancelotti pouvait pas non plus rattraper les années de retard. Mais
c'est pas son pire match non plus. Hein.
C'est... Wow, c'est... Et pourtant, tous les 1 contre 1 sont perdus depuis 6 mois. Quoi.
Contre le PSG, là, sur un match où il était paumé, même contre Chelsea, hein, où il avait pris l'eau à un moment, je sais plus si c'est à l'aller ou au retour. Il avait été en grande difficulté. Deux hommes dans le match. Messieurs, je pense le meilleur de chaque côté. De Bruyne, du côté de City, là, qui retrouve un niveau vraiment, vraiment très élevé. Et puis Benzema en face. De Bruyne qui symbolise un peu la force collective de City, qui sublime cette force collective, Flo. Et Benzema qui est là pour à chaque fois sortir le Real de son infériorité. C'est assez marrant comment les deux peuvent être très très forts, mais dans des rôles, dans des missions totalement différentes.
Ouais, j'avais d'autres hommes aussi dans le match, mais c'était un peu, c'était un peu plus négatif. Mais c'est vrai que moi, côté City, sur la première mi-temps, alors que City était dans son temps fort, dans sa bonne période, on va dire, qu'on va résumer un petit peu à la première demi-heure, même si ça englobe pas totalement à la première demi-heure, parce qu'il y a eu des petites périodes, je crois, où le Real a gardé la balle sur cette partie-là. Mais c'est Ederson et Stones. Alors Stones n'était pas à son poste, il n'était pas non plus totalement fit. Ederson a lâché 2-3 passes complètement folles qui ont donné des situations au Real et des récupérations très hautes au Real Madrid. Et Stones, à un moment donné, je crois qu'il y a une passe justement d'Ederson vers lui et Stones met une tête dans l'axe qui revient, il me semble que c'est Modric qui gratte le ballon.
Ouais, c'est pour sauver la touche, ouais, et du coup, ça. En fait, ça fait passe décisive quasiment. Voilà. Quoi.
Et c'est typiquement le genre d'action où City peut foutre en l'air tout un temps fort tout seul. Tu vois, Raphaël, tu parlais tout à l'heure de cette équipe qui peut, qui n'arrive pas à survivre à ses temps faibles ou à des débuts de temps faibles. C'est aussi une équipe qui, par ces joueurs-là, peut totalement donner un match à son adversaire. Et c'est typiquement, j'en parle parce que c'est typiquement le genre de situation où au retour le Real peut s'en tirer et aller chercher la victoire sur des conneries comme ça. Et t'as ces deux joueurs là qui derrière m'ont un petit peu gêné en début de partie. Après bon, il y a la deuxième mi-temps de Laporte aussi qui entre en compte et qui rejoint un petit peu cette affaire là. Et un peu plus haut sur le terrain, bah t'as les occasions manquées par Mahrez qui plombe aussi le bilan. Ces trois joueurs-là, quatre avec la porte, qui symbolisent un petit peu qui ne peuvent que donner de l'espoir au Real en vue du match retour. Parce que c'est vrai que côté madrilène, autant t'as des joueurs qui souffrent, Carvajal vous évoquait tout à l'heure. Par contre, je vois pas de joueurs qui font ce genre de conneries dans le 11 madrilène sur le match retour.
Ouais, t'as Alaba sur Jesus, là, sur le but, qui se fait un peu trop facilement bouger et devancer.
Ouais. Oui, mais c'est pas une connerie, c'est la même que Fernandinho, sur Vinicius, quoi. C'est une mauvaise lecture de trajectoire. C'est pas, mais franchement, moi, City, sur la première demi-heure, je pétais un plomb. Je me disais, mais au pire, rendez la balle. De toute façon, vous la récupérez assez vite. Le Real n'arrive pas forcément à bien construire avec. Et au final, tu peux offrir 2-3 buts. Du coup, je vais prendre les aspects positifs, vu que Flo a évacué le négatif. Alors évidemment, Benzema sera obligé de se répéter, mais commencer du coup par De Bruyne. Et là, c'est aussi l'une des différences entre les deux équipes, c'est que le meilleur joueur du Real, bon, il y a Courtois, mais c'est un petit peu à part sur ce match-là, pas forcément, mais le meilleur joueur du Real est en bout de chaîne, et le meilleur joueur de City est généralement le passeur. Donc ça veut dire que il y a des déviations, des décalages, etc. Des passes de De Bruyne qui sont exceptionnelles, mais encore faut-il quelqu'un pour finir. Là où Benzema, ça peut être des passes bien, mais sans plus, qui vont arriver en but. Donc c'est ça aussi qui fait que parfois, t'as pas exactement la même... En gros, City est quasiment sûr de gagner au XG avec un tel passeur, mais pas forcément sûr de gagner. C'est vrai que De Bruyne, dans l'activité déjà, quand même, alors ça a souvent été le cas, mais n'empêche qu'il commence à faire son âge, là. Il a dépassé les 30 ans, et il court toujours autant, donc ça, c'est quand même c'est quand même pas mal parce qu'il a la fois en... Bon, il défend en première ligne, dans le 4-4-2, puis ensuite il redescend, puis il va être l'animateur, puis il va remonter. Enfin, il est vraiment hyper actif là-dessus, donc ça te permet de presser. C'est quand même toujours bien ce que je disais avant quand tes artistes pressent. Et sur les passes, sur les décalages en un temps, enfin vraiment, il y a pas grand-chose à jeter.
C'est celle, de manière générale. Celle qui met Foden en début de match, là, sur une transition en une touche, là, avec Foden qui rate son contrôle après, et ça n'est pas cadré, il me semble, à l'arrivée.
C'est ça. Mais il prend pas l'information, il fait une passe en un temps, pied le poil bien dosé. Enfin, vraiment, cette passe-là, c'est une passe qu'assez peu de joueurs font régulièrement. D'ailleurs, l'association avec Foden était quand même assez sympathique. Et de l'autre côté, Benzema, bah, qu'est-ce que tu peux dire? Il y a à la fois le, bon, évidemment, là, il sera Ballon d'Or. Je sais pas si ça a un intérêt incroyable pour l'histoire du foot. N'empêche qu'à l'échelle du football français, il y en a pas non plus beaucoup. Donc, et puis même à cet âge-là, il y en a pas beaucoup dans l'histoire du foot. Donc, ça dit quand même quelque chose. Et puis, dès qu'il y a un centre, il les coupe. Franchement, je lui vois même encore plus de capacité à bien finir que Cristiano Ronaldo sur ces phases-là. Le Cristiano Ronaldo de la meilleure période, quoi. C'est-à-dire que, alors, ils auront pas été au top en même temps.
C'est plus varié, les finitions de Benzema.
C'est ça, Ronaldo,
Ronaldo dans les airs.
De la tête. Mais n'empêche qu'il y aura eu Bale. Bon, du coup, c'était pas exactement la même période, parce que Benzema a son pic un peu plus tard, mais Bale, Ronaldo, Benzema auront été trois des meilleurs réceptionneurs de centre dans l'histoire récente du foot, et les trois ont joué ensemble. Donc c'est vrai que ça conditionne aussi tes plans de jeu, t'as pas besoin non plus de te casser les couilles à jouer intérieur, etc.
Le Real de Zidane, oui. Le Real de Zidane, ça centrait, et puis but, 3 Ligue des Champions.
En même temps, il aurait été con de faire autrement quand tu voyais qu'il y avait tant de ça. Enfin, quand t'as Peter Crouch, tu joues pas en profondeur, hein, tu fais les centres. Bon, c'est pas pour... Enfin, c'est une comparaison un peu nullos, hein, mais c'est pour dire que quand t'as tel profil, autant en profiter. Mais oui, Benzema, il y a ça, et puis il y a le côté... Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, l'une des images qui restera, en tout cas sur l'aspect français, alors restera façon de parler, hein, mais qui a marqué les gens, c'est quand même le Vinicius joue contre l'équipe à l'époque qui balance dans le vestiaire, alors qu'en fait sur le terrain, Benzema est le joueur le plus, je sais pas, le plus dans le soutien,
le plus altruiste,
etc. C'est vraiment. Alors il n'y a pas que lui, hein, mais ce côté le Real peut être touché et jamais coulé, ça commence aussi par lui, hein, parce qu'il a un peu le révolte, mais aussi parce que jamais il montre les signes d'exaspération, etc., qui là pour le coup pouvait être associé à des Cristiano Ronaldo, à des Zlatan, enfin pas mal de grands joueurs, ou les signes d'abattement d'un Messi par exemple, où quand ça va pas, il a tendance à baisser la tête, ou Neymar lui va mettre des chassés aux adversaires. Benzema, c'est vraiment, je dis pas ça pour compenser un peu ce que j'ai dit de mal sur le Real, mais on est vraiment sur un joueur qui est d'une classe largement supérieure à la plupart des joueurs encore en lice dans cette compétition à ce poste-là, mais même à ce qui est en face, entre lui et Gabriel Jesus, j'aime bien Jesus, hein, mais ils font vraiment pas le même sport sur à peu près tous les aspects du foot. Hein.
Bah, y a une stat qui dit bien cette gestion des émotions. Donc là, j'ai un total de minutes jouées qui est en Liga, en Coupe d'Europe ou avec l'équipe de France depuis 2009. 40 000 minutes, ça fait 553 matchs, pas toujours fruit fini, pas toujours démarré, mais quand même 550 matchs. Il a 11 cartons jaunes et 0 carton rouge. Donc il lui faut 50 matchs pour recevoir un carton jaune et il n'a jamais pris de rouge. Je crois qu'il a jamais pris de rouge dans sa carrière d'ailleurs. La stat était sortie à un moment comme quoi il n'avait jamais pris de rouge dans sa carrière, et c'est vrai que ça montre bien la sérénité du gars, et qui convient bien à Ancelotti et à Zidane d'ailleurs. Le côté on panique jamais, même si on coach un peu moins, bah on est là et puis on a confiance en nos joueurs. Et c'est vrai que Benzema, c'est un peu ça. Bon, ça panenka, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Mais il est là aussi pour créer des occasions, pour transformer des ballons difficiles en ballons exploitables. Il a encore trois dernières passes sur ce match-là. Il n'y a que 11 tirs, du Real. Donc il a 3 tirs et 3 dernières passes sur les 11 tirs du Real.
C'est correct.
C'est encore pas mal du tout, ouais, c'est ça. Avec Vinicius qui fait un bon match, combien de buts met le Real si Walker est là?
Je pense qu'ils ne mettent pas le deuxième déjà. ça me paraît évident. Mais est-ce que City met son troisième but? Puisqu'il faut quand même dire que Fernandinho fait une action phénoménale avec la récupération.
Ah ouais, c'est vrai que Walker monte beaucoup moins.
Après, peut-être que dans le move, il peut les faire ces montées-là dans le move sur la récupération. Mais est-ce que le centre aurait été comme ça, machin, à la fin? Je sais pas. Mais c'est vrai que je pense que oui, dans le deuxième but du Real, je pense qu'il n'existe pas avec Walker. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il sera là dans une semaine? Je sais pas.
C'est limite.
Ouais, je pense pas.
Ce serait bien.
Pour City, ce serait bien.
Quand t'as Benzema Vinicius en bonne forme, ça peut toujours mal tourner.
Pour City, ce serait bien. D'autant plus que ça, il devrait encore être obligé de bricoler, j'imagine, pour pouvoir compléter ce côté droit.
Vinicius, 14 buts, 8 passes D en championnat, 3 buts, 6 passes D en Ligue des Champions cette saison. Il n'a que 21 ans. Il va en avoir 22 cet été. Donc, ouais, il était arrivé très tôt. C'est vrai qu'il était un peu paumé sur tous les plans d'ailleurs. À part sur le plan du 1 contre 1. Et depuis, c'est devenu un joueur très très complet.
On y a cru. On y a cru.
C'est Benzema de toute façon. Ouais, mais je me rappelle qu'on avait fait la bascule. En tout cas, moi j'avais fait la bascule sur un match qu'il avait fait contre Liverpool il y a un an et demi de ça. Avec des champions. Je sais plus quand Liverpool était décimé et qu'il y avait Nat Phillips en défense centrale avec Ozan Kabak.
Enfin, quel souvenir!
Ah mais ça, ça restera funeste puisque ça ne reviendra plus en fait. Donc vraiment, il faut savourer ces instants quoi.
Ah bah le over/under de match de Ligue des Champions de Nat Phillips et Ozan Kabak combinés d'ici la fin de leur carrière.
Il est à 2 je pense. Après ils peuvent toujours revenir ça, avec un Galatasaray, Kabak ça peut dans quelques années il peut faire les tours ou Beşiktaş prendre 3 points en phase de poule. Mais c'est vrai que là pour l'instant ça part pas très bien.
Bon, ben voilà messieurs, merci pour cette cette analyse Ligue des Champions. Bon, mais on se retrouve donc la semaine prochaine pour parler du match retour de Coupe d'Europe, pour voir si Marseille sera en finale de Coupe d'Europe ou pas, et voir ce qu'il advient de la Ligue Europa également et de la Ligue des Champions.
Salut,
ciao.
Bonjour.